Chers amis, les 2 mois de confinement que nous avons vécu ont souvent été marqués par la peur, essentiellement celle de la maladie qui s'est ajoutée à nos craintes récurrentes et propres à chacun. La solitude pour certains, la promiscuité pour d'autres, le sentiment d'isolement pour tous n'ont fait qu'aggraver la situation. On attendait avec impatience le déconfinement, mais celui-ci ne nous a pas rassurés. Le risque sanitaire est toujours là et une période d'insécurité professionnelle et économique s'est ouverte. Cependant, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez pas ». Et c'est vrai que l'angoisse n'a que des effets néfastes. La peur paralyse, elle nuit à la santé. Mais facile à dire de ne pas s'inquiéter. Pourtant, Jésus n'a pas l'habitude de nous bercer de phrases toutes faites, telles que nous pouvons en dire parfois, quand nous ne savons pas quoi répondre. « Allez, t'inquiète pas, ça va aller », en donnant une petite tape sur l'épaule. Non, Jésus parle et agit toujours en vérité. Devant la solitude et le désarroi humain, il a une réponse radicale. En lui, nous avons la paix, l'amour, la joie, le salut, la vie. Mais comment vivre avec lui qui a quitté ce monde à l'ascension pour rejoindre son Père? C'est hors de notre portée. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais Jésus ne fait pas appel à nos forces et stratégies personnelles. C'est lui-même qui agit. C'est lui qui vient cheminer avec nous, car par son esprit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mieux encore, aujourd'hui, jour de Pentecôte, nous recevons son Saint-Esprit sur nous, en nous. Si nous l'acceptons, il agira dès aujourd'hui et pour toujours. Je vous invite donc, frères et sœurs, à la confiance en Dieu, la confiance en Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit, car dans leur amour, ils nous libèrent de tout mal. Et en ce jour de Pentecôte, comme Jésus le demande, faisons église ensemble, non pas pour simplement nous protéger, mais pour vivre quelque chose de grand, une espérance vraie, celle du salut en Jésus-Christ, dans la joie de sa présence éternelle, et l'amour et la communion fraternelle avec ceux qu'il a placés sur notre chemin. Je vous invite à prier ensemble. Père, aujourd'hui tu nous baptises de ton Saint-Esprit pour que nous soyons renouvelés et unis pour former ton Église universelle. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour et pour ta compassion, fort de l'Esprit-Saint. Fais de nous des disciples confiants, heureux d'annoncer ensemble, dans la paix et la joie, le salut en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous propose de chanter de tout notre cœur, d'une seule voix, cet appel au Saint-Esprit, qui dit « Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel ». Descends sur nous.
Témoin véridique, tu Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 1 à 14. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem.
En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il que nous les entendons s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye ? Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion.
Nous venons de la Crète, de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. » Alors Pierre se leva, entouré des onze, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, et comprenez ce qui se passe. »
La scène 1 de l'acte 2 du livre des Actes des Apôtres commence par une phrase qui laisse planer un certain suspense. Quand le jour de la Pentecôte arriva, comme si on attendait quelque chose. Bien sûr, pour tous les Juifs de la diaspora, c'est une fête qui arrive 50 jours après Pâques. Mais pour les disciples rassemblés dans la chambre haute, c'est une autre attente qui est en suspens. Ils attendent la réalisation de la promesse de Jésus qu'il a faite il y a quelques semaines, avant l'ascension, avant de rejoindre le Père. Il leur a promis une puissance, il leur a promis le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit arrive tout à coup, comme un coup de vent, au verset 2. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'est comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Le vent de l'Esprit s'est abattu sur eux et a rempli la maison. Alors comme souvent dans la Bible, ou quand on lit la Bible, on aurait bien aimé être présent pour voir tout l'épisode, voir à quoi ressemblait ce qui ressemblait à des langues de feu. Parce que ce ne sont pas des langues de feu ou des flammèches qui sont vraiment arrivées sur la tête, mais des choses qui ressemblaient à des langues de feu. On aurait aimé les voir et puis on aurait aimé entendre ses disciples sans instruction parler dans des langues étrangères. On aurait aimé voir cette effusion de l'esprit. Mais on va quand même pas trop se plaindre. On a malgré tout un récit qui est assez précis et qui nous donne des indications en particulier sur les effets de l'esprit dans la vie des personnes. Et si je parle d'effet, c'est bien parce que l'Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité, qu'on appelle le souffle de Dieu, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est le mot souffle ou vent, Eh bien, cette troisième personne de la Trinité ne se voit que dans ses effets, un peu comme le vent d'ailleurs. On ne le voit que dans les effets qu'il a sur les branches de l'arbre un jour de grand vent ou sur le parapluie de la dame qui se retourne sous l'effet du vent. Donc on va voir quels sont les effets de l'Esprit dans la vie des gens. L'effet Pentecôte ou les effets de l'Esprit. Et le titre de la prédication, c'est « Quels effets te fait l'Esprit ?» Et dans le récit de la Pentecôte que nous avons lu, et un peu plus loin dans les livres des Actes, on peut distinguer trois effets de l'Esprit. Et le premier est directement lié au récit de la Pentecôte et à cet événement extraordinaire, il faut le dire, où l'on voit des disciples parler dans des langues étrangères, donc des langues qu'ils n'ont pas apprises, mais qui sont compris par tous ceux qui se trouvent autour d'eux. Alors, on peut s'interroger sur ce parler en langue, parce que c'est de cela dont il s'agit. Et beaucoup d'encre a déjà coulé sur le sujet, et un petit peu de sang même aussi a coulé sur le sujet. Mais ce qui est important, c'est de voir que c'est sous l'effet de l'Esprit que tout le monde comprend le message. Tous ces gens qui venaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte provenaient de la diaspora juive, c'est-à-dire de la dispersion juive, et venaient de tous les pays alentours et même très loin, avec leur propre langue et leur propre culture. Il y a des juifs, tout ce qu'il y a de plus normal, mais il y a aussi des juifs hellénisés, c'est-à-dire qui parlent grec et qui sont sous l'influence grecque. Il y a des craignants Dieu, c'est-à-dire des presque juifs. Il y a des Irakiens, des Iraniens, des Grecs, des Italiens, des Turcs, des Égyptiens. Des gens que tout sépare et voilà qu'ils entendent l'évangile, les bonnes nouvelles, les choses extraordinaires que Dieu a accomplies dans leur propre langue. Et donc on peut, c'est vrai, discuter à loisir de l'aspect technique du parler en langue. Mais le but de l'auteur, c'est de montrer l'effet unificateur de l'esprit. L'unité de l'esprit dans la diversité des langues et des cultures. On en avait déjà parlé dans la série sur le livre de la Genèse et de l'épisode de Babel, de la tour de Babel. À Babel, nous voyons l'unité dans l'orgueil de se bâtir une tour qui va toucher au ciel. Et Pentecôte arrive un petit peu comme l'anti-Babel. C'est l'Esprit qui descend pour faire l'unité dans la diversité des hommes et des femmes, différents, mais tous intégrés dans le projet d'amour de Dieu, qu'on appelle la grâce, le projet de grâce pour l'humanité. Et c'est donc un effet de l'Esprit que cette communion, et les premières églises vont le vivre intensément. Et on a dans un peu plus loin, dans le livre des Actes, dans Actes 13, une église qui est située à Antioche, sur la côte méditerranéenne. Et on en parlera plus tard dans la série, mais on nous montre une église qui marche vraiment par l'esprit. Une église où l'esprit souffle. Et nous lisons dans Actes 13, il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, puis Saul. Et un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part, pour moi, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et donc on voit que le Saint-Esprit est bien présent dans cette église, il leur parle même et il les conduit à prendre des décisions importantes, non seulement pour l'église locale, mais pour la mission à l'extérieur. Et que voit-on à Antioche? On ne voit pas particulièrement de parler en langue, mais on voit de l'unité. Ils sont tous ensemble dans l'adoration et dans la prière. Tous ensemble unis, mais aussi dans la diversité de leur origine culturelle. Il y avait Siméon, surnommé le Noir parce qu'il était certainement africain. Il y avait aussi un BCBG élevé avec Hérode. Il y avait Barnabas, un gars très sympa. Il y avait Saul, un intellectuel très très doué, une grande diversité, mais une unité, une belle unité de foi dans la foi, dans la prière, dans le service de l'Évangile. Et c'est un des plus bels effets de l'Esprit, c'est cette communion que nous pouvons vivre ensemble, malgré ou par-delà nos différences. C'est l'Esprit qui fait l'unité, mais en même temps, et c'est bien dans l'esprit de la parole de Dieu, justement, on nous appelle aussi à la rechercher, cette unité, et à la conserver également. Comme il est dit dans Éphésiens 4, au verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. » Là encore, l'effet de l'Esprit, c'est l'unité. « Efforcez-vous. » Faites tous vos efforts parce que l'unité est fragile, parce que chasser le naturel, il revient au galop, parce que un jour ou l'autre, chacun sera tenté de la jouer perso, personnel, comme Benzema au foot à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs. Travaillez à l'unité, pensez unité. Et plus loin dans l'épître aux Éphésiens, il est parlé du corps pour l'Église et Paul rappelle qu'il n'y a qu'un seul corps. Travaillez à maintenir l'esprit de corps. Comme disent les Anglais, ils disent l'esprit de corps en français dans le texte, comme si c'était une particularité française, l'esprit de corps ou l'unité. On est souvent loin du compte, mais il nous faut, dans tous les pays et dans toutes les églises, travailler à l'unité, celle qui se vit et qui se renforce par l'esprit. Le deuxième effet de l'esprit dans la vie des gens et des premiers chrétiens est souvent oublié au profit de choses qui seraient plus spectaculaires. Mais cet effet est très souvent signalé dans la Bible, et particulièrement dans le livre des Actes. Quand on est saisi ou rempli par le Saint-Esprit, on se met à témoigner de l'Évangile avec une nouvelle assurance. C'est le deuxième point, une certaine assurance dans le témoignage. Et c'est aussi un effet radical de l'Esprit. Parce que directement après l'effusion de l'Esprit, voilà Pierre qui se lève. Et soutenu un petit peu par les 11 autour de lui, il fait le sermon de sa vie. Acte 2, verset 14. « Alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. » Et là, il commence un sermon qui va être un peu long et qui ne passerait pas sur YouTube, mais qui va se terminer quand même avec 3000 personnes qui ont le cœur touché et qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Un sermon qui, on peut vraiment le dire, était inspiré, qui était traversé par le souffle de l'Esprit et qui a donné à Pierre l'assurance pour annoncer l'Évangile. Et plus loin, dans le quatrième chapitre du livre des Actes, Pierre se trouve cette fois-ci devant le grand Sanhédrin, accusé d'avoir causé du trouble sur la voie publique. Ils sont tous là, dans le grand Sanhédrin. Il y a Caïphe, il y a Anne, il y a toutes les autorités compétentes, ou non d'ailleurs, qui sont présentes, tous les gens qui comptent. Et le petit pécheur, dans toutes les orthographes du terme, je parle de Pierre, ce petit pécheur galiléen va leur répondre. Et je cite Acte 4, verset 8, « Alors Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, leur répondit, dirigeant et responsable de notre peuple, c'est au nom de Jésus que cet homme a été guéri. » Et il va avoir des problèmes pour cela. Mais Pierre, le fuyard, Pierre, le renégat rétabli, témoigne, en toutes circonstances parfois défavorables, de l'évangile du Christ ressuscité parce qu'il était rempli de l'Esprit. Et il n'y a rien, effectivement, de très sensationnel ou même d'extraordinaire. Mais c'est un effet de l'Esprit dans ce témoignage que nous voulons rendre au Christ ressuscité dans notre quotidien. Alors tous les disciples n'ont pas témoigné de la même manière que Pierre. Chacun garde son style. Certains ont un style un peu plus réservé, un peu plus effacé. Chacun garde les dons qui lui sont propres, la mission qui lui est donnée par le Seigneur. Mais nous sommes tous appelés à parler. Nous sommes pas tous appelés à parler devant 3000 ou même 300 personnes ou même 30 personnes ou même 3 personnes. Mais nous sommes tous appelés à être des témoins qui ne seraient pas timides, qui auraient un petit peu d'audace dans leur témoignage. Peut-être devrions-nous accueillir le Saint-Esprit plus largement pour qu'il fasse de nous des témoins plus hardis. En voilà une question qu'elle est bonne, ou une question qu'il faudrait méditer. Quel effet me fait l'Esprit Saint, au niveau du témoignage. Et puis, troisième effet du Saint-Esprit que l'on peut voir dans le livre des Actes, c'est celui de la louange. L'Esprit, il y aurait par l'Esprit une certaine tendance ou une nouvelle tendance à la louange. Parce que dès le premier rassemblement de l'Église, ou de ce qu'on appelle désormais l'Église ou l'Ecclésia, on trouve une disposition nouvelle à la louange. Acte 2, 47, c'est pas loin. Ils louaient Dieu. Et le peuple tout entier leur était favorable, et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Et il me semble qu'il y a là aussi un effet Pentecôte. Ça ne veut pas dire qu'avant la Pentecôte, il n'y avait pas de louange. David, dans l'Ancien Testament, est l'auteur de nombreux psaumes de louange, et il n'était pas un débutant dans ce domaine, mais il y a à la Pentecôte comme un renouveau dans la louange. Et ce renouveau de la louange va perdurer. On a l'épisode de Paul et Silas qui sont en prison dans Acte 16. Il nous est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Un moment de louange en milieu carcéral. J'aime dire qu'ils louaient à guichet fermé. Yvonne m'a montré le témoignage d'un Afro-Américain qui s'appelle Archie Williams, qui a été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis et qui a fait 37 ans de prison, dans une prison de haute sécurité. Il a été arrêté et condamné en Louisiane. Et il a été libéré après 37 ans grâce à un test ADN qui prouvait son innocence. Et récemment, dans un concours de chant, le commentateur lui demandait comment il avait fait pour traverser cette épreuve. Et Archie a répondu « J'ai prié et j'ai chanté. Et j'ai pu trouver la paix. » Et il ajoute aussi que « Si je suis allé en prison, mes pensées, elles, n'y sont jamais allées. J'ai prié et j'ai chanté, dit-il. Et j'ai trouvé la paix. » Dans nos églises, on encourage souvent à la louange parce que Dieu en est digne. Il en est digne dans le sens que c'est conforme à sa nature que les hommes lui rendent gloire par nos louanges, parce qu'il le vaut bien en quelque sorte. Et c'est totalement vrai. La louange va bien à Dieu, mais quelque part aussi la louange nous va bien. On s'y retrouve également, j'aime ce verset du psaume 33 qui dit « Car la louange sied aux hommes droits » du verbe « sied », d'habitude réservé à des vêtements que l'on essaye dans une cabine pour voir s'ils nous seillent. « La louange te sied bien. » Ah bon, tu trouves ? Ben oui, c'est du cousu humain. T'es fait pour louer Dieu. La louange vous va bien, mesdames et messieurs. Vous les justes ou les justifiés, vous les hommes et les femmes droits ou qui avez été redressés par Dieu, vous les habités par l'Esprit, la louange vous convient bien. Et je vous invite à essayer pour voir comme la louange nous va bien, pour voir comme cet esprit de louange peut nous rencontrer et rencontrer notre esprit et faire une belle alchimie. Il y a le psaume 147, verset 1, qui dit « Loué soit l'Éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable de le louer ainsi qu'il en est digne. » Et on a ces deux idées, il en est digne, Dieu en est digne, c'est conforme à sa nature que nous les créatures, nous le louions, mais aussi qu'il est agréable et qu'il est bon pour nous de le faire. Il y a un certain bonheur à louer Dieu. Un mot de témoignage personnel, au début du confinement, pendant les trois premières semaines, j'ai été saisi par une grosse anxiété. On pourrait presque parler d'angoisse qui me serrait la gorge et qui me nouait l'estomac, le matin surtout. Et j'en ai parlé avec un ami pasteur de l'Union et il m'a demandé ce qui m'avait aidé à passer ces moments difficiles, tendus. J'ai répondu que je récitais le psaume 23 en boucle, mais aussi que j'ai écouté de la musique chrétienne de louange. Je me mettais sur le divan après le petit déjeuner et pendant 45 minutes j'écoutais des chants de louange. même de la louange un peu dépassée des années 80 ou 90, avec des synthés et tout ça, avec Exo ou Amy Grant, complètement démodée, mais j'avais pas envie d'écouter Queen ou Supertramp, mais j'avais envie et peut-être besoin d'écouter des chants de louange qui parlaient de Dieu. Et ça m'a fait le plus grand bien d'écouter ces louanges faites à Dieu. Je ne pouvais pas chanter avec parce que ma gorge était prise, mais j'écoutais ces paroles qui me parlaient de Dieu en musique. La louange, voyez-vous, nous permet de remettre les choses dans une juste perspective, à leur place, en quelque sorte. La louange permet de se décentrer de soi et de ses petits bobos persos ou de ses vieux démons, et d'entrer dans la présence de celui qui sait tout et qui a pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble un avenir fait d'espérance. Oui, dans un monde troublé et incertain, il est bon de célébrer le Dieu de l'espérance. Oui, dans un monde qui fait peur, il est bon de célébrer la fidélité du Très-Haut. Dans un monde qui semble complètement fou et égaré, il est bon de louer Dieu pour sa sagesse. Dans ce monde où la valeur de l'humain est de plus en plus aléatoire, il est bon de louer Dieu pour son amour inconditionnel. Dans ce monde égoïste et injuste, il est bon de louer Dieu pour sa bienveillance et son pardon. Dans ce monde de la performance et de la compétition, il est bon de louer Dieu pour sa grâce et sa paix. Et si je me mettais à rêver, et si au lieu de désespérer de mon entourage et de ma situation, et si au lieu de critiquer tout ce qui me plaît pas dans ce bas monde, et si au lieu de m'énerver contre cette société qui ne fait rien comme il faut, si au lieu de m'inquiéter pour mon avenir et celui de mes proches, si au lieu de tout cela, j'entrais, et peut-être avec vous, dans un esprit de louange, dans un nouvel état d'esprit, un esprit de Pentecôte. On imagine les changements que ça pourrait produire dans ma vie, puis dans la vôtre, si vous me suivez dans le rêve. Vivre dans cet esprit qui nous pousse à la louange, un esprit qui nous donne de l'assurance dans notre témoignage, un esprit qui nous permet de vivre l'unité dans la diversité. C'est là tout l'esprit de Pentecôte. Alors ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de devenir pentecôtiste et d'aller dans l'église d'en face. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein, mais je pense qu'ils sont assez nombreux comme ça. Et je plaisante en disant ça, vous ne me voyez pas, mais j'ai un grand sourire, j'espère que vous le sentez. Non, il s'agit tout simplement d'être chrétien ou d'être simplement chrétien. Par sa grâce et par l'action du Saint-Esprit. Bon dimanche de Pentecôte, les amis. Et je vous invite à chanter un chant qui s'intitule « Saint-Esprit, voici mon cœur » pour nous ouvrir à son action et pour voir les effets du Saint-Esprit dans nos vies. Chantons ensemble.
l'esprit vient fond l'atmosphère, descend sur nous, viens Saint-Esprit, viens de ta lumière, envahis-nous, sois la feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur.
Nous aurons le temps d'offrande en ligne. Et je voulais reprendre cette parole qui revient souvent pour l'église du livre des actes, les églises du livre des actes, où on entend souvent « ils étaient ensemble d'un seul cœur ». Ils étaient ensemble d'un seul cœur pour faire beaucoup de choses, pour louer le Seigneur, pour prier, mais aussi pour partager. Et là, on a une notion de solidarité qui vient. Ils étaient ensemble, d'un seul cœur, dans la solidarité, dans le partage, dans la générosité. Et il est encore une fois question de cœur, comme dans 2 Corinthiens 9, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, un cœur rempli de reconnaissance pour ce que a fait le Seigneur et de confiance dans ce qu'il va faire encore à travers nos vies et dans son Église aussi. Donc, comme d'habitude, l'adresse postale de Jane Foster, notre trésorière, apparaît sur l'écran, et puis le compte, le numéro de compte et le numéro IBAN pour des virements en ligne. Et puis quelques annonces. Alors la question se pose, elle est sur toutes les lèvres, à quand la reprise ? Alors, notre conseil, le conseil de l'Église, se réunit ce jeudi 4 juin, en Zoom encore, et on va en parler. Mais la Fédération protestante de France, comme le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, nous appellent d'une même voix, d'un seul cœur, à la prudence et à maîtriser notre impatience. En plus de cela, il y a beaucoup de consignes et de contraintes à suivre. J'ai une trentaine de pages, nous avons un dossier de 30 pages de consignes et de contraintes à suivre, donc ça demande réflexion, et donc on vous demande de continuer à prier aussi pour que nous puissions prendre la bonne décision quant à la date de reprise. Ce ne sera pas le 7 juin en tout cas, nous aurons notre culte en ligne enregistré pour le 7 juin. Nous aurons aussi le week-end prochain, Dieu voulant, DV, c'est Dieu voulant, la parution du Rioux. Et puis le dimanche 28 juin, les assemblées générales de l'Église et des amis de l'Église l'après-midi. Là aussi, en présentiel ou en ligne, nous ne savons pas encore. Autre annonce, le week-end d'Église, on l'annonce depuis quelques semaines, mais donc vous pouvez déjà réserver la date pour que nous soyons le plus nombreux possible, le 10 et 11 octobre à la pastorale, c'est dans le Var, Matagna, pour passer un week-end ensemble dans la nature, en montagne, et en présence, et l'orateur a déjà accepté l'invitation. Il s'agit de Yves Pisan, que vous connaissez bien, et on se fera du bien ensemble, autour de la parole, avec Yves. Voilà, c'est tout pour les annonces, et maintenant je laisse la parole à Yvonne, qui va nous conduire dans la prière d'intercession.
Seigneur, nous sommes comme les disciples dans cette chambre, dans l'attente de ton action. Seigneur, toute cette période nous fait réaliser encore plus notre impuissance, notre manque, notre besoin de ton action, notre incapacité à faire quoi que ce soit de nos propres forces. Et oui, Seigneur, nous demandons la venue de ton esprit dans notre Église. Alors que nous sommes chacun séparés dans nos différentes maisons, viens nous unifier, viens nous rapprocher les uns des autres, au-delà de nos différences de personnalité, de culture, d'arrière-plan religieux. Seigneur, nous voulons être ensemble unis autour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, viens aussi nous donner une nouvelle assurance. Seigneur, nous sommes tellement conscients de notre faiblesse et notre timidité. Nous avons besoin de ton esprit pour nous vivifier, pour nous mettre en mouvement, pour nous permettre de rayonner autour de nous. Oui, Seigneur, là aussi, nous savons que nous ne pouvons pas le faire de nos propres forces. Et Seigneur, permet aussi que toute notre Église puisse trouver un nouvel élan dans la louange, dans l'adoration envers toi. Seigneur, que ça puisse jaillir de nos cœurs, dans la reconnaissance. Et Seigneur, nous demandons aussi la venue de ton esprit consolateur sur ceux de notre communauté qui ont particulièrement besoin d'être entourés, d'être réconfortés. Nous pensons tout spécialement à Junie, nous pensons aussi à Carole, nous pensons aux personnes plus âgées, nous pensons à ceux qui sont fragiles, à ceux qui ont un handicap. Oui, Seigneur, sois présent par ton esprit pour fortifier chacun là où il se trouve. Seigneur, nous te prions aussi que ton esprit de sagesse vienne insuffler les responsables de l'Église qui vont prendre les décisions dans les semaines à venir, et aussi les responsables de notre pays qui doivent gérer cette situation. Seigneur, que ton esprit unificateur nous aide aussi à nous accepter les uns les autres, les plus inquiets, les plus insouciants, que nous puissions être bienveillants les uns envers les autres, montrer de l'amour, du respect, malgré nos différences. Et Seigneur, merci, parce que nous savons que tu es venu sur ces disciples il y a plus de 2000 ans et que tu les as envoyés partout pour être des témoins pleins de fougue de ton évangile. Et ça nous donne confiance en sachant que tu vas venir aussi dans notre communauté, ici à Cannes, alors que nous sommes dispersés, alors que nous sommes affaiblis, alors que nous sommes dans l'incertitude. Tu vas nous rassembler. Tu vas nous donner ton esprit, nous en sommes sûrs et confiants, et tu vas nous permettre de rayonner ici dans cette ville de Cannes. Nous t'en supplions et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et oui, le vent a soufflé cette semaine, et en particulier chez mon coiffeur, et je suis heureux de vous retrouver pour ce mot de bénédiction et d'envoi. Le Seigneur l'a promis dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36. Il nous dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de vous des gens qui obéissent à mes commandements et qui les appliquent. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et cette promesse du prophète Ézéchiel, elle est pour nous aujourd'hui. Et c'est à nous de la saisir. C'est à nous d'accueillir tout à nouveau son esprit pour qu'il change nos cœurs de pierre en chair, pour qu'il souffle dans les voiles de nos vies, pour qu'il fasse de nous ses témoins dans ce monde qui souffre et qui s'égare, et qu'il fasse de nous ses témoins dans l'unité de son esprit et dans cet esprit de louange au quotidien. Que l'amour du Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la communion du Saint-Esprit nous accompagne durant cette semaine. Oui, que le vent de l'Esprit souffle dans les voiles de nos vies. Bonne semaine et à très bientôt.